Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Nous réfléchissons sur le sens des textes lus dans la Bible et désirons vous faire connaître l'espérance qu'ils apportent.
Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série de discussions avec Charles, notre invité. Ensuite, Yuva interviendra pour la dernière fois. Il parlera de l'année de grâce accordée par le Seigneur.
J'ai rencontré notre nouvel invité, Charles, chez lui. Et je lui ai tout d'abord demandé quel sera le thème de nos discussions.
Oui, merci pour votre accueil et bonjour à tous. Lorsque nous lisons la Bible, certaines images servant à décrire Dieu et ses relations avec les hommes reviennent souvent. Et je voudrais prendre une de ces images, celle du berger avec ses brebis.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander pourquoi il est important de comprendre ces images bibliques et pourquoi Dieu utilise-t-il des images pour nous parler.
Pour répondre, je vais à mon tour vous poser une question. Comment décrire des choses que l'on ne voit pas ou parler d'une personne invisible? Souvenez-vous que nos yeux ne peuvent voir Dieu. Nous ne le voyons pas, ni ne l'entendons, ni ne le sentons. Alors, les auteurs de la Bible, pour décrire le Dieu qui s'était révélé à eux, ont choisi des images de tous les jours, nous permettant de saisir, de connaître ce Dieu, de comprendre comment il agit dans la vie des hommes et des femmes. Les auteurs de la Bible vivaient dans une région du monde où l'élevage de brebis était très répandu. Les bergers étaient nombreux et tout le monde savait très bien ce que ce travail représentait, comment le berger devait s'occuper d'un troupeau. Et si on disait alors que Dieu est comme un berger, les gens comprenaient ce que cela signifiait. Ces images peuvent provoquer un déclic, nous permettant de progresser dans notre compréhension de Dieu.
Je comprends l'utilité de ces images, mais pour les gens de la ville, l'image des bergers est-elle suffisamment parlante?
Il est vrai, encore aujourd'hui, dans certains pays, l'élevage de brebis tient une place importante. Il est également vrai que vous pouvez habiter dans un pays où ce genre d'élevage est quasiment absent. Et c'est là que notre responsabilité en tant qu'enseignant de la Bible est particulièrement importante. Nous devons chercher à bien expliquer d'abord le travail d'un berger et ensuite sa signification pour notre connaissance de Dieu.
Alors, je voudrais vous demander, quand Dieu apparaît-il pour la première fois dans la Bible en tant que berger?
Il apparaît ainsi dans le premier livre de la Bible, en Genèse chapitre 48, verset 15. « Que ces garçons soient bénis par le Dieu devant qui mes pères Abraham et Isaac ont marché, le Dieu qui a pris soin de moi comme un berger, depuis ma naissance jusqu'à ce jour. »
Et qui a prononcé ces paroles et à quelle occasion?
Ces paroles ont été prononcées par le petit-fils d'Abraham, un homme nommé Jacob. Il arrivait vers la fin de sa vie et il voulait bénir ses petits-enfants. Ces paroles introduisaient donc sa bénédiction.
Nous avons entendu Jacob dire que Dieu est un berger. Mais Jacob savait-il de quoi il parlait? Était-il lui-même un berger?
Oui. Jacob faisait partie d'une famille où l'élevage de troupeaux était l'activité principale. Il a aussi mené une vie mouvementée. Et à un moment donné, il a dû fuir son père et son frère à cause de tort qu'il leur avait causé. Il fut alors obligé de se rendre chez son oncle, qui habitait fort loin. Mais là, afin de se marier avec la fille de ce dernier, il s'est vu contraint de travailler en tant que berger pendant 14 années.
Le moment est alors venu de demander en quoi consiste le travail de Jacob lorsqu'il était berger.
Le berger est une personne qui s'occupe de troupeaux de brebis, de chèvres ou d'autres bêtes. Il s'agit d'un travail à responsabilité. Il faut tout d'abord s'assurer que les brebis sont bien nourries en herbe et en eau. Dans un pays aride, ces deux choses manquent et le berger doit accompagner et conduire les brebis vers des pâturages et des puits bien fournis. Il s'agit d'un travail à risque car il faut protéger le troupeau de tous les dangers. Il faut trouver un abri adéquat par mauvais temps et défendre les brebis contre les bêtes sauvages. Si une brebis s'égare du troupeau, comme elles sont aptes à le faire, le berger doit partir à sa recherche et la ramener dans l'enclos, un lieu sûr. Un berger passe la plupart de son temps avec son troupeau. Il demeure avec lui et ne le quitte que rarement. Un berger doit être un homme fort, dévoué et désintéressé.
Je pense que ce que vous venez d'expliquer nous aide à mieux comprendre ce travail parfois méprisé. et en fait très honorable.
Oui, et nous reviendrons sur ses responsabilités afin de les aborder avec plus de détails dans les émissions futures.
Tout à fait, mais nous avons évoqué tout à l'heure ce berger nommé Jacob qui a dit de Dieu qu'il était son berger. Que voulait-il donc dire après cela?
Rappelez-vous que Jacob dit « Dieu, mon berger, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui ». Je pense dans un premier temps que Jacob veut affirmer que Dieu est fidèle, toujours présent, tout comme un berger ne quitte jamais son troupeau. J'ai déjà mentionné que Jacob a eu une vie assez mouvementée. Je pense qu'il reconnaît en cet instant que dans toutes ses péripéties et même dans ses erreurs et ses fautes, Dieu est demeuré fidèle. Dieu a veillé sur lui, Dieu a dirigé les temps et les circonstances dans sa vie. Il est demeuré une présence constante, même si, par moments, Jacob ne le ressentait pas, ni ne s'en apercevait.
Pour ceux qui connaissent peu cet homme biblique, pouvez-vous relater les grands jalons de sa vie?
Bien sûr. Si vous avez une Bible, vous pourrez lire, avec plus de détails, le récit de la vie de Jacob qui se trouve dans Genèse, du chapitre 25 à 35. Puis du chapitre 42 à 50. Jacob est le petit-fils d'Abraham. Encore jeune, il s'est brouillé avec son père et son frère après avoir obtenu un droit d'héritage par du prix. Suite à cela, il a dû fuir sa famille et trouver refuge chez un oncle. Là, il s'est marié et s'est enrichi grâce à ses compétences de berger. Il a aussi eu 12 fils de 2 femmes et 2 concubines. Mais un jour, il décida de retourner dans son pays d'origine et de se réconcilier avec son frère. Malheureusement, il n'a pas su bien s'occuper de ses nombreux fils. Il a fait preuve de favoritisme envers l'un d'eux, nommé Joseph, ce qui a créé des conflits au sein de sa famille. À cause de ces conflits, il a cru perdre ce fils préféré, mais il le retrouva des années plus tard en Égypte. Il y est devenu premier ministre et grâce à sa position sociale, sa famille sera épargnée des ravages d'une famine.
Effectivement, Jacob a eu une vie marquée de crises, de conflits, de déplacements. Mais il a aussi connu des moments de pardon et de réconciliation. Jacob a connu la pauvreté et la précarité, mais aussi la prospérité. Arrivé donc vers la fin de sa vie, il proclame que Dieu est bien son berger.
Tout à fait. Jacob devait regretter bien des choses. Il s'est comporté par moments comme une brebis égarée qui s'éloigne de son berger et qui s'expose au danger des lieux déserts. Mais Dieu est allé chercher Jacob dans ses moments d'égarement pour le reconduire dans des chemins plus sûrs. Vraiment, pour Jacob, Dieu est comme un berger qui veille fidèlement sur ses brebis. Si, aujourd'hui, vous faites partie du troupeau de Dieu, de son peuple, vous pouvez avoir cette même assurance qui veillera sur vous avec fidélité et bonté tout au long de votre vie. Quelles qu'en soient les circonstances.
Tout comme Jacob, David aussi fut berger, bien avant d'être roi. Cela lui a permis d'écrire un psaume utilisant ce thème du berger.
Il s'agit du psaume 23, et j'en parlerai avec Charlot de notre prochain entretien.
En attendant, souvenez-vous que Dieu prend soin des siens, comme le bon berger s'occupe de son troupeau. Voilà une vérité fort assurante.
À présent, Hélène va lire dans la Bible un passage situé dans Luc au chapitre 5, versets 18 et 19. Ensuite, Yuva terminera ses réflexions sur ce texte. Voici donc les paroles du prophète Ésaïe que Jésus reprend.
L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur.
Imaginez un monde où chaque 50 ans, toutes les dettes devraient être annulées, les terres restituées, et la liberté rendue à tous ceux qui ont été vendus comme esclaves. Imaginez les bouleversements et les rebondissements qu'une telle année produirait. Il y aurait beaucoup de gagnants et beaucoup de perdants. Ce rêve a été inscrit dans les livres de la loi que Dieu, par son serviteur Moïse, a donné à son peuple Israël. Nous ne savons pas jusqu'à quel point cette loi dite de jubilé fut pratiquée en Israël. mais elle envisageait de donner un nouveau départ dans la vie à ceux qui étaient tombés dans l'endettement et l'esclavage, à ceux qui avaient perdu leurs terres, et avec elle la possibilité de subvenir à leurs besoins. La citation du prophète Ésaïe, lue par Jésus, fait allusion à cette année merveilleuse, pendant laquelle les pertes et les malheurs du passé sont effacés et les biens restitués. Jésus dit « C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur ». Dans la bouche de Jésus, ces paroles ont un sens qui dépasse le matériel. Elles évoquent plutôt des vérités spirituelles dont l'ancienne loi du Jubilé était une ombre, un avant-coureur. Quelle en est donc la signification ? Par nos fautes, notre désobéissance, notre indifférence envers Dieu, nous sommes tombés dans l'endettement à son égard et nous avons ainsi perdu l'héritage qui nous revenait, celui de la vie éternelle. Beaucoup savent ce que représente le fait de ne pas pouvoir rembourser les dettes qu'ils ont amassées. Cette situation est une source d'inquiétude et de malheur, parce qu'elle conduit à la perte de tout. La Bible montre aussi que nous ne pourrons jamais rembourser à Dieu la dette de nos péchés. L'une des paraboles de Jésus compare cette dette à celle d'un ouvrier journalier qui doit des millions et des millions à un roi, ce qui nécessiterait des milliers d'années de travail pour qu'il puisse s'en acquitter. Cela tient de l'impossible. C'est pour cette raison que Jésus annonce l'année de la bonté du Seigneur. En effet, pour nous, il ne s'agit pas d'une année bien précise, telle que 2005, mais à partir du ministère de Jésus-Christ et jusqu'à son retour. Toutes les années sont des années de bonté dont il faut saisir l'opportunité pour recevoir la grâce du Seigneur. En quoi consiste la bonté du Seigneur ? En ceci, que Dieu annulera la dette de ceux et celles qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Tout comme l'on faisait pendant l'année du Jubilé, où les dettes étaient annulées. Dieu annule la dette du péché, c'est-à-dire qu'il pardonne nos fautes. Elles sont effacées. De surcroît, tout comme pendant l'année de Jubilé, les terres perdues étaient rendues à leurs propriétaires d'origine. Dieu nous redonne notre héritage spirituel, qui est dorénavant réservé aux croyants dans les lieux célestes. Vraiment, le Seigneur fait preuve de bonté et de grâce, de miséricorde et d'amour. C'est cela que Jésus est venu proclamer. Maintenant, votre part est d'en profiter.
Comment bénéficier de cette année de grâce ? En croyant simplement et sincèrement aux promesses de Dieu.
Et il faut aussi reconnaître ses fautes, comprendre que nos offenses sont pour Dieu des dettes insurmontables.
Il faut également demander pardon à Dieu pour ses péchés, le supplier d'annuler notre dette, au nom de Jésus.
Alors, toute brebis qui s'est égarée loin de son Dieu pourra bénéficier des grâces offertes par Jésus, le bon berger.
En attendant notre prochaine émission, toute l'équipe d'Espérance aujourd'hui vous souhaite de passer une semaine bénie en la présence du Seigneur.
Au revoir et à bientôt.